Bienvenue sur le podcast. Le podcast de Trouver Objet Caché. www.tentaculess.net. Le site francophone dédié au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. À vous les poulpes.
Oula, elles sont innombrables les sources d'inspi là-dessus. Par exemple, une source d'inspi, enfin une source d'information, puisque pas d'inspi, pour tout ce qui concerne l'environnement, c'était le livre sur la survie écrit par Maniguet, qui est un petit peu une référence dans le domaine, quoi. Ensuite, pour des choses plus anecdotiques ou des choses traitant des légendes urbaines, c'est par exemple l'émission Mythbuster, où les gars ils vont tester si la légende urbaine fonctionne ou pas. Genre, détail bête, c'est est-ce que quelqu'un peut mourir en se prenant une pièce de monnaie lancée depuis le haut d'un building. Voilà, ils vont faire des tests à la con comme ça. Et donc c'est assez marrant. C'est très marrant à lire d'ailleurs et à regarder leurs émissions. Enfin, regarder leurs émissions et lire les comptes rendus.
C'est vrai, c'est eux qui testent un peu les trucs MacGyver. Mais enfin, tu me disais que tu as quand même beaucoup lu de littérature.
Alors voilà, ça c'est le troisième point. C'est beaucoup de choses d'époque, des romans, des récits de voyage, des romans. Enfin, pas des romans d'aventure, des récits d'aventuriers, etc. Enfin, bref, là c'est innombrable. Il y en a des caisses.
Ouais, mais ce qui veut dire que dans la V6 de l'appel, finalement, on en aura plein de petits morceaux un peu disséminés partout, quoi.
Ben oui, comme tu as pu t'en rendre compte à la lecture, d'ailleurs.
Ah oui !
Quand je parle d'une règle, je parle, en fait, j'utilise une anecdote ou un élément historique, ou etc., pour l'illustrer.
Alors là, par exemple, j'en prends
pas juste de parler d'une règle, quoi.
J'en prends une qui m'a beaucoup fait rire, c'est le coup de la cigarette. Qui, on a toujours l'impression, pendant la scène quasi finale, où le méchant, finalement, a déjà les pieds dans une mare d'essence. Et à ce moment-là, on prend ostensiblement sa cigarette que l'on jette à ses pieds, pensant qu'il va s'enflammer comme une torche humaine, comme une espèce de gros kebab. Et là, tu nous dis dans le bouquin, dans un petit encart, qu'il y a, je crois, 25% de chance qu'une cigarette qui est finalement pas si chaude que ça, et qui n'atteindra pas le point de fusion, le point de fusion de l'essence. Et donc, on va se retrouver avec un G à 25%. Et on va se retrouver très con si tout ne s'enflamme pas, parce que, bien sûr.
Voilà, ce qui fait qu'il vaut mieux utiliser une flamme vive.
Donc, vous avez compris. Prenez chacun votre chalumeau de cuisinier. Et puis, si vous voulez faire le con, vous l'enflammez. Et comme ça, il y aura plus de chance.
Et voilà, et là, ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre toutes ces petites anecdotes, ces petites trivia, etc. Je dirais que ça fait partie des règles d'univers, entre guillemets. C'est-à-dire, bon, l'Appel de Cthulhu est un jeu qui se passe dans notre monde à nous, le vrai. Et donc, ces règles d'univers, elles ne sont pas quantifiées sous forme de règles de jeu. Mais bon, voilà, ce sont des choses. Se passent comme ça. C'est les lois de la physique, etc.
Et puis, ça fait quelque chose de beaucoup plus sympa à lire, en plus. C'est un truc dynamique. C'est-à-dire qu'on a lu un bon paragraphe de règles. On se dit, bon, là, attends, plus 20%, ok, d'accord, j'ai compris. Il y a un petit tableau, souvent récapitulatif, il dit, voilà les situations et voilà les bonus. Un spécial dans cette compétence que ça fait. Puis là, à côté, on a finalement un petit encart qui nous met en situation la règle de chute ou la règle de gestion, par exemple, des flammes et tout ça, quoi.
Ouais, pour donner un aspect, je dirais, plus inspirant à des règles qui, en principe, sont austères.
En parlant du bouquin, je dirais qu'on en vient à une petite question qui nous interpelle là, quelque part, en bas à droite, sous le pseudopode.
Oh,
les préventes de la... Alors déjà... Rien que le fait d'avoir des préventes montre que, vu que c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus courant, que ce soit dans le métier du jeu vidéo et tout, ça prouve que l'Appel au Cthulhu est un peu entré dans notre siècle. Donc ça, c'est déjà sympa. Mais alors, les préventes qui sont assez énormes, qu'est-ce que ça t'inspire, Christian? Qu'est-ce que tu en déduis? Est-ce que, ça y est, tu as fini d'acheter ta maison Galapagos à crédit ou
Non, ça fait juste battre mon petit cœur tout rose.
Mais non, il est noir, ton cœur, Christian.
Ah zut, c'est vrai.
Non, mais t'en tires quoi de ces préventes qui ont vraiment, franchement, bien marché, quoi.
Ben, c'est très, très, très motivant. En fait, ça dépasse les espérances qu'on avait de ce côté-là.
D'accord.
Parce que bon, après 9 ans d'absence du poulpe, etc., on sait pas forcément.
Ouais.
On s'est posé beaucoup de questions, on a fait des projections minimalistes et tout ça. Comme ça, on est sûr que même si c'est pas un succès ou quoi ou qu'est-ce, on est sûr de pouvoir continuer, etc. En voyant que c'était vraiment attendu. Bon, bien sûr, on s'en doutait un petit peu parce qu'au fil du temps, il y avait des indices, hein, genre des gens qui disaient oh, ça sort quand?
Oh,
Je ne suis pas personne.
on a eu personne sur TOC qui a demandé. Et c'est la première fois qu'on pose la question.
Oui, d'ailleurs.
Et donc,
Et donc on est vraiment, vraiment super content parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On ne s'y attendait pas.
par contre, attention, là, une question sérieuse. Parce qu'on est sérieux sur TOC
Oh!
aussi, hein, quand il faut, hein. Donc, parce que les gens comme moi qui
Le
sont
jeu, c'est
précipités,
sérieux.
qui sont précipités sur la version collector, hein, j'ai vendu mon rein et mon bras, mais est-ce qu'on l'aura à l'heure?
Bien sûr.
Attention, hein. Fais gaffe, c'est enregistré. Non,
Sûr.
mais c'est vrai que, enfin, il faut dire à nos auditeurs et nos auditrices.
Alors, je ne peux pas donner de date précise,
Je te laisse
puisque
le choix dans la
ben, en
date.
fait, il y a tout simplement des petits camions qui roulent et que, bon, ben voilà,
Mais
hein,
bon, c'est
on ne
quand
peut
même des
pas
Allemands
forcément.
derrière. C'est la
Hein,
rigueur.
alors, logiquement, début novembre, il n'y a pas de souci.
Mon Dieu, c'est bientôt!
Les... Ça part. Oui, très bientôt.
T'es fortement, je dirais, optimiste sur la date. Parce que c'est vrai que, bon,
Au
perso,
pire, enfin, je dirais, bon, à une semaine près, quoi. Hein.
Voilà.
Voilà.
Parce que
C'est à une semaine près.
par
C'est pour
rapport à
ça
la
que moi, je
sortie
dis début
boutique.
novembre. Je préfère dire début novembre plutôt que de donner une date, parce que de toute façon, ça rime à rien dans la mesure où ben, il y a les transports et les choses comme ça, enfin,
Mais
etc.
je dirais que c'est surtout par rapport à la sortie en boutique qui, elle, est prévue aussi.
Alors, si la poste traîne pour certains envois, au pire, je pense qu'ils l'auront peut-être 1 à 2 jours après la sortie en boutique. Mais
D'accord.
normalement, si la poste est correctement, ils l'auront avant. Voilà.
Bon, maintenant, bon, la version collector, hein, tout le monde doit l'acheter, ça c'est clair. Le bouquin, maintenant, les gens voient que c'est beau et tout ça. Par contre, bon, pour la suite, on sait que donc il y a l'écran. Attention à l'écran, on n'en a pas beaucoup parlé, mais
Alors, l'écran, il sort en même
digital.
temps.
Ouais.
Il arrive en même temps, il sera disponible en même temps en boutique.
Non, mais c'est utile parce que se cacher derrière le bouquin de règles, c'est pas terrible.
Ben, c'est ça, un jeu sans un écran, il manque un petit truc là, c'est.
Et en plus, je dis ça en rigolant, mais d'un autre côté, c'est pas si con que ça. De toute façon, je pose jamais des questions cons, hein, je suis le maître de TOC, donc je pose toujours. Non,
M'étrangle.
ce que je veux dire, c'est que quand on a décrit le système comme on l'a décrit, qui est avec des règles sympas, bien décrites et tout, la gestion des personnages non-joueurs et tout, on s'aperçoit de façon très sérieuse que finalement l'écran est un élément très important, car si une règle, même simple, si on l'a plus en tête, si on l'a derrière l'écran, moi je dirais bêtement, bêtement, qu'est-ce que j'ai vu derrière l'écran que. Alors là par contre j'ai pas eu en avant-première, mais j'ai eu quand même le PDF en avant-première. Par exemple, la règle des compétences, c'est quelque chose de tout bête, c'est quelque chose qu'on
Il y a la
n'avait
liste
pas
des
dans les autres
compétences.
versions, et il y a eu toujours beaucoup de joueurs, moi ça m'est retrouvé, je me suis retrouvé dans certaines situations, a pu me rappeler quelles compétences ont les joueurs, et leur dire, bon faites un G, attends, bouge pas, je regarde sur ta fiche. Ouh, ah ouais, bah fais un G en ça,
Et
t'as CCR, super.
bien voilà, tu vois, ça c'est typiquement l'exemple. C'est exactement pour répondre à cette question-là que tu viens de poser que ben, j'ai mis la liste de compétences sur l'écran. Parce que c'est moi également, ça m'est arrivé de dire Ah oh, zut, il y a quoi déjà comme comp?
Voilà,
Voilà, et là, tu as la réponse sur l'écran direct. Et autre truc aussi qui est sur
Ouais.
l'écran, bah, c'est simplement en haut le rappel pour ne pas se fatiguer à calculer, c'est combien 1/5 de 72?
Alors là, c'est
Voilà,
très
donc
juste
il y
parce
a
que.
tout est précalculé de manière très simple, de sorte à ce que enfin de manière assez visuelle pour pas avoir à chercher.
Et c'est même rappelé sur la fiche de perso. Ouais. C'est vrai que c'est parce que
C'est
c'est le
rappelé sur
genre.
la fiche de perso pour éviter les calculs, justement.
Le spécial, on s'en sert que si, ouais, en regardant rapidement le chiffre et qu'on ait un chiffre à côté en disant, bah voilà, pour 26%, la spéciale s'étend. C'est vrai que sinon, on s'en servira pas, parce qu'il faudra aller chercher, calculer, en pleine partie, à 3 h du mat, poursuivi par une horde de profond, c'est pas le premier truc auquel on pense, quoi. Mais
Tout à
donc.
fait. Bon, que là, c'est, enfin, si tu veux, l'écran, au même titre que le livre de règles, encore plus l'écran, c'est véritable. Ça doit véritablement être un outil pour le gardien, puisqu'il l'a en permanence sous les yeux, et c'est un petit peu censé être quand même son outil de référence. Genre,
Bon,
oh,
ouais.
zut, c'était quoi déjà? Paf, j'ai la réponse. S'il a vraiment un doute ou quoi aux caisses, pour chaque table, il y a le numéro de page du livre de base qui est indiqué, où la règle est expliquée en détail.
On a la version normale, enfin le livre des règles, version collector pour ceux qui veulent. On a l'écran. On sait que va sortir le guide des années 20 qui, à mon avis, sera super important parce que, enfin, vu ce que tu nous dis, avoir potassé et tout ça, ça risque d'être un ouvrage assez, je
Alors,
dirais.
il va être riche, ouais. Il va être assez riche.
Voilà, puis surtout qu'en plus on s'est aperçu que c'est principalement des scénarios comme les années folles qui finalement documentaient beaucoup, je dirais l'époque, qui ont eu pas mal de succès. Alors personnellement, on passera sur les fameux Secrets of, hein, que tu comptes éditer malgré les remontrances pulpiques, mais derrière, grosse campagne, réédition, comment tu vois un peu les choses, si tu t'es déjà projeté à cette distance-là, grosse campagne, des rééditions de choses, des remises à jour d'anciens suppléments?
Alors bon, déjà, là, on est en train de travailler dessus sur une campagne qui est Tatters of the Kings,
ah,
qui est donc en français en 2009.
Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une campagne qui est déjà disponible en anglais.
Voilà, inédite en français, qui est une très belle campagne, oui. ayant pour sujet Astur, qui est bien souvent maltraité. Et là, il est très très sympa. Passe en 2 ans dans les années 20. 28 et 29, si je ne m'abuse. Ça doit être ça, ouais. Et donc, on fait le tour du monde dans cette campagne, comme toutes les grandes campagnes
attention,
de l'appel.
Attention, je te rappelle que sur TOC, nous avons une discipline anti-spoil. Hein. Alors, on va pas raconter la fin. Enfin, à part le fait que Astur...
On dit pas qu'ils meurent tous. Oh, zut.
Donc, Setter of the King, donc ça, c'est une trad pure, hein. C'est une traduction pure avec adaptation système,
ouais.
Je pense.
Secrets of New York, dont on ne parlera pas.
On est comme ça sur TOC, on a des convictions. Non, mais... D'un autre côté, je comprends qu'il y a des gens que ça intéresse, mais moi perso, je me jetterai sur Tatters of the King et je pense pas que je jetterai Secret of New York. Mais après, il y a des gens qui feront l'inverse et tout ça, quoi. Mais derrière, après Tatters.
Alors, il y a également Beyond the Mountain of Madness, mais je crois que tu n'es pas grand adepte de cette campagne.
Beyond the Mountain of Madness, ouais, moi, je dirais que c'est un peu trop cinématographique pour moi et un peu. Surtout que, enfin, pour poser une question franche, j'y dirais, t'as pas peur qu'un gros machin comme ça, ça fasse un peu mal plutôt qu'un recueil de scénar?
Non, pourquoi ça ferait mal s'il y a du recueil de scénar?
Alors voilà, mais t'en prépares en parallèle ou
c'est-à-dire qu'en gros, tout simplement, ce que je veux dire par là, c'est que Beyond the Mountain of Madness est une campagne qui est mythique, sans faire de mauvais jeu de mots, que beaucoup de gens a vraiment envie de découvrir parce qu'elle n'a jamais été traduite.
Oui, alors attention, moi je mets Ola, elle est mythique parce que déjà il y a sa taille,
oui, déjà.
Fait un truc mythique. Maintenant, beaucoup de gens ont monté le mythe sur cette campagne sans jamais, je dirais, l'avoir joué ou en l'ayant survolé. Le fait est que c'est vrai que c'est quand même une campagne quelque peu un peu linéaire.
C'est assez normal puisqu'en fait c'est une expédition et voilà. Donc, il y a un peu de linéarité, c'est clair, c'est normal.
Qui s'adapte bien au côté.
Mais je dirais qu'il y a d'autres campagnes qui sont tout aussi linéaires, somme toute, dans l'appel.
Tout à fait. Mais alors, pour être précis, donc Tatters of the King, ensuite, dans la lignée, ça sera plutôt un recueil ou ça sera plutôt Beyond?
Je ne connais pas l'ordre, puisqu'on n'a pas encore déterminé le calendrier de sortie. Donc, c'est des titres que je ne peux pas donner dans l'ordre.
Le recueil avant le scénar, après la campagne. Christian, le recueil, c'est une voix d'outre-tombe. Non, c'est vrai que ce qui avait fait, c'est un peu le deuxième point fort où il faut avoir une réussite. C'est le point fort qu'avait eu l'appel au Toulouse en ayant une profusion de recueils, une profusion de campagnes. Et qui fait que
c'est effectivement ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que là, bon, on parle de Beyond, de Tatters, de Secrets of New York. C'est 3 titres. Et on va pas se limiter à 3 titres en 2009.
D'accord. Ah, donc tu nous prévois du lourd pour 2009, quoi.
Par exemple, bon, là, donc, est prévu le guide des années 20. Donc, au cœur des années 20 qui va sortir pour la fin d'année.
D'accord.
En 2009, il y aura au cœur des années 30.
Donc il y aura un mélange de, je dirais, suivant ce que vous avez
de background, fait. De campagne, de scénar, etc., ainsi que de traduction et de création originale.
D'accord. Pour finalement, je dirais, un peu contenter, parce que bon, moi je vais pas faire Beyond, mais il y a plein de gens qui vont faire Beyond, il faut contenter tout le monde. Il n'y a pas que moi, quoi.
Exactement. Il y a d'autres gens également. Non, donc normalement tout le monde devrait trouver son bonheur au niveau des différents titres. Après, c'est selon les.
Comme j'ai droit à une super question par podcast, à chaque fois j'en ai droit à une top. Donc pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom de sans détour? Pourquoi pas, par exemple, je sais pas moi, sans retour?
C'est une très grande question. Et là, il faut replonger dans les anecdotes de création. C'était un soir. À la première bière, nous n'avions toujours pas trouvé de nom. À la deuxième, non plus. À la troisième, non plus. Quelques bières plus tard, oui, en effet, pouf, sans détour.
Enfin, la plus sans détour, les gars. Non, mais c'est vrai, ça, pourquoi, d'où ça vient?
Très simplement, on se faisait un brainstorming, jusqu'à ce que ce nom-là, il sorte.
Comme ça.
Ni plus ni moins. Et en fait, on a accroché dessus tous les quatre, hein, parce qu'on avait fait une réunion à quatre, et voilà.
C'est là que vous avez fait une flèche pour le désigner, puis que vous avez entouré d'un petit losange, c'est ça, non?
Voilà. Exactement, sur un coin, sur un coin de table.
C'est fou, c'est un logo de surfeur. CJ est un gros surfeur australien avec les cheveux longs et des t-shirts de Midnight Oil. Alors, c'est pour rappeler les vieux panneaux. C'est vrai qu'il y a un petit côté exotique dans le panneau, mais c'est vrai que ça fait panneau de civilisation.
Ouais, clairement, oui. Ouais. C'était l'inspi, du coup, pour le moment. Et en fait, le lendemain, ben, ça nous plaisait toujours. La semaine suivante, ça nous plaisait toujours. Et donc, on a adopté.
Et tu n'as pas peur qu'avec ce logo, tous les joueurs aient une tendance à tourner du même côté?
je sens la fourberie dans ta question.
La question pourrie. Donc, tu t'en détournes. Par contre, un point intéressant, là, tu nous dis, vous étiez quatre. Parlons un peu, parce qu'il n'y a pas que toi. Le monsieur dont tu citeras le nom et qui a fait du très bon matos, notamment sur le fanzine Raiders of the Lost Ark.
C'était Raiders of Adventure.
Donc, est-ce que tu pourrais nous juste nous citer un petit peu les personnes qui t'ont, je dirais, aidé?
Alors, ben, Raiders, c'était donc Sam. Voilà. Sam, qui donc est également l'auteur, donc Samuel Tarapaki, qui est également l'auteur de la campagne qui est dans le livre de base, qui donc est un grand adorateur du poulpe depuis, au moins depuis qu'il existe, le poulpe.
Il avait participé à Archeos ou pas, Sam?
Il n'avait pas participé, mais par contre, c'est lui qui a effectivement fait le zine Raiders, qui était initié au départ par Archeos. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés.
Ah, c'est beau.
Nous versons une larme à chaque fois que nous y pensons.
Et qui d'autre alors, autrement, dans l'équipe? Parce que donc, Sam, pour Piotr. Lui, Sam, c'était plus, je dirais, le côté donc, scénario et tout ça.
Oui. Oui, tout à fait. Un grand adorateur devant l'Éternel. Et sinon, il y a Piotr, donc qui est connu pour avoir déjà monté le Ligue Bazar.
Oui, donc quelqu'un qui a déjà l'expérience et puis qui a réussi à tenir un projet de bout en bout, vu que ça marche bien du Ligue Bazar.
Là, tout à fait. Donc l'idée, si tu veux, c'était un petit peu de, comme on se connaît tous les trois, etc. L'idée, c'était de se dire, on a un panel de compétences, on a un panel de parcours. On sait chacun faire des choses dans notre domaine spécifique. Et si on mettait tout ça ensemble pour voir si on pouvait faire quelque chose.
Donc Piotr, c'était plus pour le côté édition, faisabilité, tout ça.
Voilà, tout à fait. Sam, pour l'aspect, tout ce qui est scénario, tout ce qui est également expérience dans l'édition.
Ouais.
Et moi, un peu pareil que Sam, mais avec l'aspect graphisme en plus, etc. Puis l'expérience issue d'Archeos.
Et bon, on a parlé d'Archeos. Archeos qui a disparu. Je vais pas qualifier ça. Ah oui, tiens, attends, excuse-moi, je pensais à quelque chose. Tu nous as dit que vous étiez quatre au premier brainstorming. La quatrième personne.
Oui, et donc quatrième personne qui est également impliquée dans l'affaire, mais qui n'est pas une force vive directement parlant, dirons-nous, mais qui a le gros avantage d'être un très bon professeur de français.
Ah, ce qui fait qu'il n'y aura pas de faute d'orthographe.
Il y en aura toujours, parce que sur un bouquin de 288 pages, il est absolument improbable qu'on n'ait pas laissé passer une coquille au moins.
Enfin, j'ai rien vu de excessivement, pour l'instant, choquant, il n'y a pas de souci. Mais bon, revenons-en à Archeos. Donc Archeos, tu montes, c'était quoi? Comment ça s'appelait? C'était
EWS.
Tu montes ça, ça marche bien, machin et tout. Et finalement, c'est la maison Périclite. Alors, en quoi cette expérience, en quoi en as-tu tiré, je dirais, des enseignements, les affaires à ne pas faire et ce genre de choses pour l'appel au Cthulhu?
Déjà, à l'époque-là, je cumulais un petit peu trop de choses en termes de fonctions, ce qui donc maintenant n'est plus le cas puisque chacun a ses tâches dédiées, dirons-nous, et son domaine. Donc je peux nettement mieux me concentrer sur le boulot qui est le boulot éditorial et le boulot de maquette, donc déjà parce que par exemple tout ce qui est aspect gestion et communication et compagnie, ça prend énormément de temps, et donc à l'époque je ne pouvais pas m'occuper de tout en permanence, etc. Donc là c'est nettement plus confortable pour tout le monde de vraiment bien pouvoir se répartir les tâches. Donc ça, c'était déjà un des premiers enseignements.
Ouais.
Parce qu'en fait, on arrive très vite au bout du rouleau quand on a un peu trop de choses sur ses petites épaules. Alors, je dirais qu'il y a une similitude d'époque. Parce que Archeos, c'était dédié années 30, mais c'est les mêmes sources d'inspiration que beaucoup de gardiens ont pour l'appel. Forcément, je dirais que c'est naturel que l'appel me plaise. ou ouais. Inversement, enfin bref, c'est, voilà. C'est,
parce
c'est,
que en plus, je dirais que sur Archaeos, tu avais fait quand même un choix, je dirais, un peu éditorial, original, sur le format d'édition, et puis après, oui. Passer en PDF, et ce genre de choses, enfin, je dirais, pour l'instant, je pense pas qu'on les retrouvera dans l'appel, mais c'est quelque chose que tu... finalement que tu pouvais concevoir sur un jeu, je dirais, créé comme ça, comme Archaeos, et que tu ne conçois pas forcément sur un gros jeu comme l'appel, non?
Ouais, c'est deux philosophies complètement différentes. L'appel, il a 30 ans, il a 30 ans d'existence, enfin presque 30 ans. Archaeos n'existait pas. Donc, je dirais que une gamme comme l'appel de Cthulhu, qui est très riche, a tout un acquis. Archaeos ne l'avait pas, donc Archaeos devait faire ses preuves. À l'inverse, pour l'appel de Cthulhu, on reste dans une continuité.
Ouais, c'est vrai que là, c'est plus. Je dirais que Archaeos avait tout à fait accroché, et puis il y en a toujours qui jouent, et il y a toujours des sites qui le maintiennent, avait accroché son public.
Mais c'est vrai que. Je suis très heureux d'ailleurs.
Voilà, autant Archaeos avait pris, je dirais, avait créé un public, enfin, devait s'accrocher à un public qui n'hésitait pas forcément, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux très pulp, et surtout, il n'y avait pas beaucoup de jeux traduits, parce qu'il y en avait beaucoup en anglais, et tout ça, avec les systèmes action, et tout ça. Mais autant là, c'est vrai que sur l'appel, tu étais quand même, je dirais, tu partais avec une base de joueurs, et je dirais, des façons de jouer. T'avais déjà un cadre.
Bah voilà, et d'ailleurs c'est très intéressant ça, ce que tu dis là, puisque c'est aussi quelque chose qui est important à conserver. C'est-à-dire que cette nouvelle édition ne devait pas rompre avec les différentes manières de jouer, etc. Et partant, comme ce qu'on disait précédemment, sous les notions de différents styles de jeu, etc., on a simplement formalisé dans cette édition les différents styles de table qui sont pratiqués. Il y en a qui vont faire de l'horreur, il y en a qui vont faire de l'Indiana Jones. Ouais. Et comme il y en a qui vont faire de l'investigation pure.
De l'Indiana Horreur, moi je fais. Ou de l'Horreur
Jones. C'est vrai. Avec le chien. En même temps, tu t'appelles Vonve.
Et je ne m'appelle pas comme le chien Wolf.
Bon, c'est le nom de son chien.
On saura tout.
Ouais, et sinon, justement, en termes d'équipe, je vois que sur le site de Sans Détour, il y a une petite rubrique collaborer. Ah, mais c'est magnifique ça, mais vous recrutez. Deux fixes, c'est suffisant pour ce que vous faites
dans le domaine du jeu de rôle, c'est beaucoup déjà. Deux fixes.
Mais pour produire le bouquin de base, vous n'étiez pas que deux pour les traductions et tout ça.
Alors en fait, le bouquin de base, il n'y a pas eu de traduction puisqu'il a été entièrement réécrit. Et par contre, bien sûr, après, pour les différents titres avec les traductions, on fait appel à des collaborateurs extérieurs. Comme par exemple Valérie Florentin qui a traduit Tatters, Olivier Fanton qui a traduit Secrets of New York, etc. Donc,
Olivier Fanton qui a fait ça. Mon ami à moi que j'ai.
Ah, tu en as encore?
Si tu m'écoutes... Ah non, je le déteste. Si tu m'écoutes, Olivier, tu peux couper, je vais dire du mal. Non, mais c'est par contre de quelqu'un de... Je sais reconnaître la compétence, quelqu'un de très compétent qui a beaucoup bossé sur Donge, hein, c'est ça.
Donc c'est lui, très compétent, tout à fait.
Ah, c'est celui qui s'occupe de Secret. Bon, mais j'aurais pas de remords à pas le prendre. Si ça avait été toi qui l'avais fait...
Méchant.
On est comme ça sur toi.
Donc, recentrer un petit peu, c'est plus pour des scénars, genre par exemple, je sais pas, une petite campagne ou un petit truc, genre du one shot presque comme ils font sur Chaosium au niveau de la démonographie par exemple, ce qu'ils font en PDF.
Non, c'est à dire que tout simplement, alors les monographes ne font pas partie de la licence parce que ce sont en fait, Chaosium ne fait qu'éditer. C'est à dire que si toi demain tu veux écrire un monographe, tu l'envoies à Chaosium, eux ils se contentent de le publier s'il leur plaît. C'est à dire qu'on n'est pas sur ce principe là, du moins pas pour l'instant, ça viendra peut-être, franchement je ne sais pas.
Mais pour les collaborations, quand Wolf dit que c'est ouvert sur le site, pour les collaborations ça veut dire que...
Si tu as une campagne qui dort dans ta cave, que tu as écrite avec amour, tout à fait.
Et ce qui veut dire que peut-être que, à force d'amasser quelques bons scénars, on va se retrouver avec des recueils de scénars récupérés par des gens qui ont collaboré.
On est complètement ouvert, il n'y a aucun souci pour ça.
D'accord, c'est intéressant à savoir pour tous les poules, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je ne sais pas écrire un scénar, mais il y en a beaucoup qui savent. Et c'est vrai que ça peut être intéressant, des gens qui ont formalisé sous format électronique, je dirais, leur campagne, et qui se disent, finalement, ça peut être l'occasion d'y aller, quoi.
Ouais, on est complètement ouvert à ça, il n'y a aucun souci rapport à ça.
Ok, vous êtes ouvert, ça c'est sympa.
Ah ouais, alors.
Bon, alors maintenant qu'on a passé
les de bureau, hein.
Donc maintenant qu'on a passé les questions qui étaient censées être sérieuses, non, c'était sérieux, on va passer un peu aux divers, aux variés, aux spéciales, comme on dit, maintenant qu'on a fait le tout venant. Première question, qu'est-ce que tu as pensé du dernier Indiana Jones?
Alors Indiana Jones, j'ai un regret pour Indiana Jones 4, c'est que ce film porte le titre Indiana Jones.
Et après on dit que c'est moi qui suis méchant avec Olivier. Comment t'es trop méchant alors, avec le gros Georges?
Alors je m'explique. Je m'explique. La première trilogie, enfin la trilogie.
La trilogie, il y en a
la qui là,
avec un L et un A, a été faite à une époque où les choses étaient beaucoup moins aseptisées. Et dans ce cadre, je trouve qu'il y a ce côté numérique qui malheureusement gâche un peu le plaisir. C'est-à-dire que autant dans Les Aventures de l'Arche Perdue, une course poursuite d'un Indiana Jones à cheval derrière un camion, on y croit. Autant dans celui-là, il y a des choses, on a un peu de mal à y croire.
T'as pas cru à Chia Leboeuf qui se veut balader de liane en liane? Oh bah
non.
Donc,
par contre, il y a des scènes tout à fait excellentes. Il y a des scènes qui sont vraiment super. Bah, du style la course-poursuite dans l'université à moto, qui est excellente.
Yes.
Ouais, ou la fin aussi.
Non. On parle pas de la fin.
Le générique, il est bien, ouais, clairement, ouais. Non, il y a aussi quelque chose qui est très très sympa. C'est le traitement de Indy vieillissant. Il est très bien rendu. Mais bon, malheureusement, à côté de ça, ben, y a un côté trop hollywoodien moderne. C'était un peu ma crainte. C'est-à-dire qu'ils nous avaient spoilé disant « Ouais, non, vous inquiétez pas, on le fait à l'ancienne. » Ils auraient bien fait de garder, d'effectivement le faire à l'ancienne. Quoi.
Ouais, non, là, je suis tout à fait d'accord. Autre question, une petite question sympathique. Nous savons qu'il y a un deuxième jeu appelé Cthulhu qui est sorti l'année dernière. Donc on se retrouve finalement avec deux poulpes à sortir à un an d'écart. Toi, à ton niveau, hein, tu vas être forcément subjectif. C'est pas nous sommes objectifs sur TOC, mais on te demande pas de l'aide. Deux jeux sur le poulpe, est-ce que ça fait pas trop à si peu d'écart?
Non, c'est bien. C'est
bonne réponse, bien merci Christian.
Non, c'est pas très bien parce que plus on parle du poulpe, mieux c'est.
Et puis,
tout simplement.
Et puis c'est
s'il y en a qui n'apprécient pas le basic system, ils ont une alternative et inversement. Donc c'est très très bien.
Et puis c'est vrai que ce sont deux jeux qui sont quand même, je dirais, un peu d'inspiration et de système et d'orientation quand même un peu différents malgré, je dirais, les
voilà, c'est-à-dire qu'en fait, nous on est complètement dans la veine de ce qu'a fait Chaosium depuis le début. On reste dans cette optique qui est l'appel de Cthulhu parce que c'est ce qui fait l'appel de Cthulhu. Trail a une optique, une approche différente, et c'est très très bien. C'est très très bien, ça permet la variété.
Comment il est consensuel, c'est trop la classe. Non mais en même temps, c'est vrai que pour nous joueurs de l'appel, c'est du pur caviar que d'avoir deux alternatives qui sortent quasiment en même temps pour jouer de façon complètement différente. Et c'est vrai quand on se balade sur les forums, en dehors des espèces de pseudo, je dirais, polémiques pourrites, ce qui est sympa, c'est que finalement, on peut s'apercevoir que ça accroche deux publics et qu'il y a tout à fait deux publics pour le poulpe. Et puis ça fait plein de visites sur TOC.
En plus.
Et au niveau population, justement, de joueurs, t'estimes ça à peu près combien
J'attends l'estimation de TOC.
C'est difficile, je pense, à doser.
Très difficile. Parce que donc, potentiellement, il y a 60 millions de joueurs en France. Potentiellement.
De 7 à 77 ans.
Mais bon, ça fait peut-être un peu beaucoup.
Non, parce que beaucoup, en termes de chiffres, par exemple, je dirais un jeu de rôle, un livre de base, ça, pour la première édition, ça s'est dit à combien?
C'est très variable, en fait.
Il y en a
qui vont faire des tirages à 500 exemplaires, d'autres à 5000.
Toi, dans ton cas, pour l'appel de Cthulhu?
Nous, on est plutôt dans la fourchette haute, parce que c'est l'appel de Cthulhu, et on compte bien réussir à faire à peu près 3000 exemplaires d'ici la fin de l'année.
D'accord.
Et on estime ça, parce que vu les résultats des précommandes, etc., on se dit, ouais, on devrait pouvoir arriver à 3000 exemplaires d'ici la fin de l'année.
Oui, parce que c'est vrai que nous, on joue tous dans notre coin et tout, mais c'est intéressant d'avoir des chiffres un peu globaux. On pourrait se dire, un bouquin de base, c'est 50 000 exemplaires qui vont se vendre partout, mais non, finalement, il y en a une dizaine, une vingtaine par boutique, et quand on voit le nombre de boutiques qu'il y a en France, oui, on se retrouve avec des éditions.
Voilà, exactement.
À l'unité du millier, je dirais.
Ouais.
Et un supplément, par exemple, comme les années folles derrière, enfin, comme le guide des années 20?
Alors là, pareil, c'est assez variable selon le titre. Là, puis très sincèrement, on verra selon le livre de base aussi.
Ça se règle, d'accord, tu peux le régler, je veux dire, c'est quelque chose qui peut se régler en fonction du livre de base, en disant, bah voilà, on a vraiment casé nos 3000 comme on voulait, donc on peut se lâcher un peu sur le supplément derrière qui va accrocher du monde et tout ça.
Voilà, dire que on se dit, s'il y a potentiellement 30 personnes qui ont été intéressées, bon, partons sur un tirage de, par exemple, s'il y a 2000 personnes, 2000, 3000 personnes qui ont acheté le livre de base, bon, ben, on se dit, on pourra partir sur quelque chose de cet ordre d'idée-là.
Et puis comme ça, ouais, c'est pas non plus déconnant, après avoir eu les chiffres du livre de base, de pouvoir régler les suppléments.
Ouais, tout à fait, c'est assez logique. Hein,
c'est pour l'appel, l'appel étant quand même un jeu là, et puis le supplément pour les années 20 étant quand même un supplément d'époque, c'est vrai que ça peut ne pas intéresser des joueurs de l'appel, mais ça peut intéresser des joueurs qui ne jouent pas à l'appel, mais qui veulent, je dirais...
Je dirais d'autant plus que le guide au cœur des années 20 est un supplément pur background et totalement historique. Alors ça peut paraître bizarre de dire qu'on fait un vrai supplément pur histoire pour du jeu de rôle. Eh ben, pas sur l'appel. Surtout quand on commence à gratter un petit peu l'époque et qu'on se rend compte que finalement, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il y a déjà suffisamment de choses hallucinantes dans l'époque pour servir de scénar.
Et que finalement, c'est vrai que ce qui peut nous manquer, c'est d'avoir une vraie... une vraie inspiration, une vraie odeur de l'ambiance de l'époque avec un vrai supplément qui peut se lire, je dirais, comme un bouquin le soir ou en préparation de campagne et tout ça, quoi.
Et donc, c'est vrai que c'est mieux que d'avoir finalement une dizaine de pages sur la fin du bouquin, d'avoir dédié ça à des scénarios et finalement de perdre du matos qu'on pourrait mettre justement dans ce gros bouquin, quoi.
Voilà, surtout que bon, en plus, je dirais que la campagne qu'on a mise dans le livre de base, elle se suffit à elle-même. Elle pourrait se passer quasiment à n'importe quelle époque. Bon, on a choisi de la mettre dans les années 20 parce que c'est l'appel de Cthulhu.
Ouais, quand même.
Elle est complètement jouable sans avoir de ressources sur l'époque. Et d'autre part, si on avait voulu faire les choses bien, on aurait dû sortir un livre de 500 pages. Comme guide de base. Donc, il était plus intéressant de faire un guide d'époque complètement dédié.
Ce qui fait qu'en plus, ça fait quelque chose de bien partagé. Ce que fait remarquer Wolf, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce qui veut dire que pour finalement avoir toutes les données d'époque, il y aura un gros bouquin qu'on peut avoir sous la main. Pour avoir les règles, on aura le livre des règles. Et que finalement, on ne sera pas obligé de se balader de bouquin en bouquin en se disant « Ah oui, c'est vrai, la suite du background, elle est sur tel supplément que j'ai pas acheté. »
Exactement,
quoi que ce soit.
Tout à fait.
Là, on achète, on sait ce qu'on achète, hein.
Exactement.
Pas déconner.
Mais ça va même plus loin, parce qu'à la limite, si tu veux, si les années 20 te branchent pas trop, tu peux dire « J'attends celui sur les années 30. »
Ça va être bon, ça, les années 30, pour faire une Indiana Poulpe. Et donc, nous allons bien sûr terminer ce Poulpcast par la question que se posent nos auditeurs. Oui, j'entends ça du standard. Oui, il y a beaucoup de gens qui appellent pour demander « As-tu eu, j'espère, l'autorisation de Toc pour invoquer des grands anciens comme ça, dans ton petit coin de province ? As-tu fait une invocation à Toc avant ?»
Eh bien, j'ai une question à te poser, bon.
Oui.
Combien d'ongles te reste-t-il ?
Tu veux parler de ce que j'ai pété en ouvrant la Toc cave ?
Ouais. Depuis toujours, depuis l'époque où Toc était sur Migal. J'ai toujours suivi l'actu.
On était vieux à cette époque-là, enfin on était jeunes avec vous. On était fougueux, on gambadait au bord de la mer, au milieu des algues.
Et oui, si tu poses la question de savoir si on a demandé l'assentiment, je dirais forcément. Ne serait-ce que parce qu'on se connaît déjà. Avant, on se connaissait avant. Puis t'as été le premier informé.
Oui. Wolf, est-ce que t'as une question Vislard ou Vachard à balancer pour finir
Ah non, j'ai déjà tout dit moi.
T'as tout lâché?
Ah ouais, j'ai tout lâché.
Ah, Wolf, tiens, on va continuer, j'irai à faire de la promo pour tous les jeux Poulpique. Et puis écoute, Christian, on va te remercier.
Eh ben, merci à vous. Merci à vous pour cette place d'audience tout à fait parfaite.
Ouais, mais on va te dire de te remettre au travail, hein. C'est pas tout ça, mais t'as du boulot, garçon. Hein,
j'y retourne.
ils vont pas se faire comme ça, les suppléments. Ah, d'accord.
Donc... Il paraît, hein.
Écoute, merci bien, et puis peut-être un autre podcast pour autre chose, et puis bonne continuation à Sans Détour, et puis à bientôt dans les bouquins, alors. Hein.
Et à très très bientôt, pas de soucis.